partir en vacances entre copines peut virer au cauchemar. Avril dernier, une Américaine, la vingtaine, raconte sur le forum Reddit un voyage mémorable. Quelques semaines plus tôt, elle avait invité sa meilleure amie. Vol, hôtel, activité, tout frais payé. Mais à peine arrivée sur place, c'est la Bérésina. La copine gracieusement invitée disparaît dans les bras d'un mec croisé au bar de l'hôtel. Résultat, une rupture amicale à l'arrière-goût de cocktails trop sucrés et trop chers. Bienvenue dans le Mac de l'été, votre escale culturelle préférée. Ce soir, valise, cabine en main, on décolle vers une destination longtemps ignorée des tour opérateurs. Un refuge intime et précieux, parfois chaotique, mais délicieusement réconfortant. Un territoire où l'on peut enfin être soi, l'amitié féminine. Notre première guide s'appelle Kalindi Rampfel. Bonsoir Kalindi.
Bonsoir, chère Constance.
Enfant timide, vous passiez votre vie en avion avec votre mère hôtesse de l'air. Aujourd'hui, vous vous décrivez comme une infernale bavarde, je cite, pour moi, vous êtes surtout une autrice audacieuse.
Oh, merci, j'ai encore bien fait de me lever ce matin.
Votre premier roman, Les Jours Mauves, carton littéraire de 2024, en cours d'adaptation au cinéma, continue d'illuminer les rayons de librairie avec sa couverture violette. En avril dernier, vous publiez Greta et Marguerite chez Jean-Claude Lateste, l'histoire de deux femmes rivales qui se lancent dans une improbable aventure finlandaise à la poursuite du passé de l'homme qu'elles aiment, le récit d'une amitié interdite et l'amitié transgressive, justement. On en parlera en troisième partie avec Johanna Cincinnatis-Abramovic, journaliste et autrice, elle signe Elle vécure heureuse, l'amitié entre femmes comme idéal de vie, tout un programme. À 18h30, comme tous les soirs, on fait un petit point panorama culture. Au programme, des artistes engagés, des paillettes, du piano, Maria Carré en glace à l'eau et les coulisses des JO. Alors posez-vous tranquillement dans la salle d'embarquement avec votre sandwich au fromage à 17€. Le Mac de l'été, c'est jusqu'à 19h sur France Inter.
France Inter, le Mac de l'été. Constance Villanova.
Kalindi Rampfel, votre roman, il commence par un coup de foudre. Greta, elle a 26 ans. Elle est hôtesse de l'air et elle tombe éperdument amoureuse de Romuald, un passager plus âgé, ophtalmo et père de famille. Et lui, en fait, il en a peur. Des coups de foudre, des vrais, car depuis tout petit, il est persuadé qu'il va mourir dans une tempête. Cette scène croustillante, elle se passe dans un écor qui n'a rien à dodin pour vous. C'est un avion et vous êtes fille d'hôtesse de l'air.
Oui, mais c'est vraiment la chose la plus merveilleuse qui me soit jamais arrivée de ma vie.
Du coup, c'est quoi le rapport au voyage quand on a une mère hôtesse, Kalindi Rampfel?
C'est toute notre vie, le rapport au voyage. Moi, j'ai vu ma mère partir pendant des jours et des jours quand j'étais toute petite fille. Et c'était toujours, ça représentait l'exotisme parce qu'elle me disait, voilà, je pars dans des contrées si lointaines, c'était formidable. Et moi, tous mes amis me disaient, mais est-ce que tu souffres pas de l'absence de ta mère? Je disais, mais non, c'est merveilleux parce qu'elle m'emmène souvent avec elle dans ses bagages. Moi, j'ai voyagé partout avec elle. Elle m'emmenait en rotation à Tokyo.
Vous avez fait des week-ends au Togo, c'est ça?
Ah, c'est ça. J'ai honte de le dire. Mais mon empreinte carbone dépasse largement celui de Taylor Swift. J'ai vraiment honte, mais c'est ainsi. Et ouais, on faisait des week-ends à Tokyo, des week-ends à l'île Maurice. C'était formidable. Et moi, ça a vraiment dicté tout mon amour pour le déplacement géographique, mais aussi le voyage intérieur que je fais vivre à chaque fois à mes héros et mes héroïnes.
Le goût de l'histoire et de l'aventure.
Exactement.
Alors, avant de rentrer plus dans votre roman Greta et Marguerite, on passe au moment test, au moment Jeune et Jolie Magazine.
Oh, j'adore.
J'aimerais savoir quelle haussienne vous êtes. C'est l'interview haute saison. Alors, les vacances entre amis peuvent être source de tension. D'ailleurs, le dernier numéro de Society Magazine y consacre un article, je vous le conseille. Vos vacances les plus foireuses entre amis, Kalindi?
Écoutez, j'aimerais vous donner une réponse croustillante, mais je crois que tout s'est toujours bien passé. Néanmoins, une fois, je suis allée au Vietnam avec quelques-uns de mes amis, et ça a accroché en plein milieu d'une campagne parce qu'on n'était pas d'accord sur l'endroit où on devait crêcher. L'une voulait dormir à la Belle Étoile, mais on allait être assaillis par les moustiques. Moi, dans un hôtel en dur où au moins j'allais pas me réveiller avec le chikungunya. Donc, enfin, bon, bref, voilà. C'était le seul sujet de discorde. Sinon, en général, je m'entends bien avec le reste de l'humanité.
Donc, plus sur l'organisation, quoi.
Ouais, c'est ça.
Votre père, il est mauricien.
Oui.
C'était quoi l'odeur de vos vacances à l'île Maurice? Vous y passiez vos étés?
Oui, j'y ai passé mes étés. J'y ai aussi passé certains Noëls. C'était formidable. Je vous conseille de passer vos Noëls au soleil. Je crois que l'odeur pour moi de ces voyages-là était l'odeur du chatini coco, qui est un plat typiquement mauricien, une espèce de chutney que préparait ma grand-mère dans sa cuisine. Et c'est un plat à base de noix de coco séchées et râpées qui embaume. C'est merveilleux, il n'y a rien qui me rappelle plus. Et ma grand-mère, et l'île Maurice.
Votre pire souvenir de vacances avec vos parents?
Écoutez, ça doit être un voyage dans le sud de la France parce que j'ai fait 11 heures de voiture avec mon père qui était un invétéré râleur et emmerdeur. Et je crois que ça a été 11 heures très très longues, voilà.
Alors, on va replonger dans les pages de votre roman, mais avant ça, j'ai envie de vous replonger, vous, dans l'été de vos 20 ans. Mm-hmm. Le premier été de liberté. On est en 2012. Alors, c'est la fin officielle du service du Minitel. François Hollande devient le 7e président de la 5e République. C'est l'apogée du jean slim qui comprime nos gambettes. On s'en souvient très bien. Mais il se passe beaucoup d'autres choses.
Je suis Mérida, fille et première descendante du seigneur de Dunbrough. C'est pour obtenir ma propre main que j'entends participer à ce tournoi.
Un londonien sacré à Paris, Bradley Wiggins, remporte donc ce Tour de France 2012.
Mon père va enfin pouvoir dire que son fils a remporté le Tour de France. Merci à tous.
Il a marqué l'histoire de la conquête spatiale. Le 21 juillet 1969, 500 millions de téléspectateurs ont suivi les premiers pas d'un homme sur la Lune, ceux de Neil Armstrong. L'astronaute américain est mort à l'âge de 82 ans.
Vous vous souvenez, Kalindi Rumpel, de l'été de vos 20 ans ?
Je m'en souviens très très bien. Il faut que je vous le raconte, du coup.
Allez-y. Vous étiez où ?
Alors, j'ai fait un truc extraordinaire et ça tombe bien. C'est vraiment l'année où j'ai fait le truc le plus dingue. Je suis allée en Afrique du Sud être apprenti ranger et je me suis occupée d'animaux sauvages dans une réserve au sud de Johannesburg qui s'appelle le Moholoholo Rehabilitation Center. Je me suis occupée de mangoustes aveugles, de guépards, enfin un truc complètement saugrenu. J'ai adoré ça et c'était un centre où on s'occupait des bêtes qui étaient malades, qui étaient blessées. J'ai fait ça tout mon été.
Pendant deux mois,
je vais quand même pas mentir si tôt dans votre émission, mais je crois pendant quelques semaines, deux ou trois semaines, et c'était génial. On se réveillait le matin, on allait s'occuper des bêtes, et ma mangouste aveugle a été ma meilleure amie pendant ce séjour où je me suis fait très peu d'amis humains par ailleurs.
Les animaux restent des amis. Avant de parler d'ailleurs de ce nid douillet qu'est l'amitié au féminin, on reste en 2012 avec ce titre « La terre est ronde » et c'est signé Aurel San.
Au fond, je crois que la terre est ronde, pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison.
T'as besoin d'une voiture pour aller travailler. Tu travailles pour rembourser la voiture que tu viens d'acheter. Tu vois le genre de cercle vicieux, le genre de truc qui donne envie de tout faire sauf de mourir vieux. Tu peux courir à l'infini, à la poursuite du bonheur. La terre est ronde, autant l'attendre ici. J'suis pas feignant, mais j'ai la flemme. Et ça va finir en arrêt maladie pour toute la semaine. J'veux profiter des gens que j'aime. J'veux prendre le temps avant que le temps me prenne et m'emmène. J'ai des centaines de trucs sur le feu, mais j'ferai juste ce que j'veux quand même.
Au fond, j'crois que la terre est ronde, pour une seule bonne raison. Après avoir fait tour du monde, au fond, je crois que la terre est ronde, pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison.
Les rapports qu'un riz donne les mêmes conseils que mes parents. Fais ce que tu veux dans ta vie, mais surtout fais de l'argent. J'essaye de trouver l'équilibre. À quoi ça sert de préparer l'avenir si t'oublies de vivre? En caleçon qui me sert de pyjama, au lieu de lécher mon patron pour une avance qui me filera pas. Ce soir je rameuterai l'équipe en attendant merci d'appeler, mais s'il te plaît parle après le bip. Aujourd'hui je me sens bien, je voudrais pas tout gâcher, je vais tout remettre au lendemain. Y'a vraiment rien dont j'ai vraiment besoin, on verra bien si je me perds en chemin.
Au fond, je crois que la terre est ronde, pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison. Au fond, je crois que la terre est ronde, pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison.
Pourquoi
quoi faire tout de suite tout ce qu'on peut faire plus tard.
Plus tard.
Tout ce qu'on veut c'est profiter de l'instant.
L'instant.
On s'épanouit dans la lumière du soir.
Du soir.
Tout ce qu'on veut c'est pouvoir vivre maintenant.
Maintenant.
Pourquoi faire tout de suite tout ce qu'on peut faire plus tard.
Plus tard.
Tout ce qu'on veut c'est profiter de l'instant.
L'instant.
On s'épanouit dans la lumière du soir.
Du soir.
Tout ce qu'on veut c'est pouvoir vivre maintenant.
Maintenant.
Au fond, je crois que la terre est ronde.
La terre est ronde.
Pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison. Au fond, je crois que la terre est ronde. Pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison. Au fond, je crois que la terre est ronde. Pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison.
France Inter, le MAC de l'été, Constance Villanova.
Mon souci premier, c'est de trouver une forme. Une forme pour ce que j'ai à dire et qui est issu de ma vie, de ce que j'ai vu, entendu, de ce que j'ai traversé, tout simplement, de mon enfance, du monde autour de moi jusqu'à maintenant, et qui continue évidemment de m'entourer, et de trouver une forme pour ça.
On vient d'entendre Annie Ernaux dans l'émission Hors-Champ en 2010 au micro de Laure Adler. Alors, Kalindi Rumphel, vous décrivez vos livres, particulièrement Les Jours Mauves, votre premier roman, comme des autofictions. Donc, petit rappel, l'autofiction, c'est un mélange d'événements, de faits réels qui permettent à l'auteur de prolonger, d'élargir sa vie vers le fictionnel. Certains auteurs, comme Annie Ernaux, refusent d'ailleurs qu'on accole ce nom d'autofiction à leur travail. Vous, comment vous négociez la frontière entre le réel et l'imaginaire dans vos textes ?
Écoutez, d'abord, c'est vrai que Les Jours Mauves était une autofiction. Le postulat de départ était réel et ensuite, je me suis amusée à tirer des fils narratifs qui n'existaient pas, évidemment, dans ma vraie vie. Néanmoins, pour ce qui est de mon nouveau roman, Greta et Marguerite, on est vraiment davantage sur de la fiction pure, où je suis allée insérer quelques éléments de ma vie. Je crois que j'ai adoré la première expérience qui était celle des Jours Mauves pour me frotter à cet exercice particulièrement douloureux et difficile qu'est l'autofiction. Et après,
surtout sur le sujet du deuil.
Exactement. Oui, ouais. Moi, je parlais de la mort de mon père. Et je crois que, évidemment, il y a des endroits de douleur qu'il faut revisiter, absolument. Mais personnellement, moi, ce processus d'écriture m'a permis quelque part de faire le deuil de mon père, et s'est révélé être extrêmement salvateur. Mais c'est vrai que c'est un exercice particulier, l'autofiction, et notamment après, quand le livre sort et que vos proches découvrent l'œuvre et qu'ils se lisent à l'intérieur de ce que vous avez écrit, et vous ne les écrivez pas telles qu'elles sont, vous les réécrivez. Mmh. Et donc, il faut composer avec les égos, parfois un petit peu contrariés des uns et des autres, et ça, c'est encore une autre salade.
Et justement, c'est quoi la limite à pas franchir ? Est-ce que vous leur demandez leur consentement littéraire avant d'écrire ? Comment vous mettez en place ? Qu'est-ce que vous mettez en place pour respecter justement ses proches pour...
Oh, je ne mets rien en place pour respecter mes proches. C'est
je ne les respecte pas.
Je tiens à ne surtout pas les respecter. Non, la question va se poser encore plus là parce que je suis en train d'écrire un nouveau roman qui s'inspire vraiment de l'histoire d'une de mes tantes à l'île Maurice. Et là, je vais vraiment lui poser des questions en amont sur son consentement parce que ça va vraiment s'inspirer de sa figure à elle. En l'occurrence, pour mes deux premiers romans, j'ai tellement réécrit, j'ai tellement tordu le cou à la vérité et à qui étaient vraiment les personnes que je n'ai pas demandé en amont. En revanche, j'ai préparé les gens. Okay. J'ai dit à ma mère, tu verras, bon, je t'ai foutu en soutien. Gorge sur l'autoroute, habillée n'importe comment, prépare-toi. Elle s'est préparée, ça l'a pas empêchée de trouver que certains trucs étaient vraiment pas bien. Bon, c'était encore une autre affaire.
En ouverture de Greta et Marguerite, à votre dernier roman, vous citez Dumas et la pop star mondiale Mariah Carey. Après chaque tempête, si vous regardez bien, un arc-en-ciel apparaît. Alors, vous l'avez dit, on peut écrire pour faire son deuil. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ?
On peut écrire pour faire son deuil parce que en tout cas moi quand j'ai écrit Les Jours Mauves, j'ai commencé le texte, ça faisait peu de temps que mon père était décédé, et au départ il y a eu vraiment de vrais endroits de douleur, je le répète, et puis au fur et à mesure, ce texte m'a permis de me réconcilier avec mon père post-mortem, et quand j'ai clos le roman, quand j'ai écrit fin, qui est quand même le mot le plus satisfaisant à écrire, quand j'ai écrit fin, je me suis dit, je crois que c'est fait, j'ai non seulement pardonné les choses que je n'avais pas encore pardonné à mon père, mais je crois que j'ai vraiment tourné un chapitre et je peux passer à une autre phase douloureuse de ma vie. Bon, voilà. Mais non, je crois vraiment que la littérature peut servir à tellement de bienfaits psychologiques, et le deuil en fait partie. Mais de toute façon, je suis pas la première à le dire. L'écriture est extrêmement thérapeutique et je le crois fondamentalement.
Quand, il y a des experts, et souvent des hommes d'ailleurs, hein, qui qualifient l'autofiction, ou du moins le fait de parler de soi ou de s'inspirer de sa vie dans ses livres comme des égo-fictions ou de la littérature nombriliste. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques-là?
Ah, j'adore. Écoutez, je crois que de toute façon, écrire, c'est quelque chose d'assez... C'est un exercice nombriliste en soi. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on se sert peut-être de nos nombrils, mais c'est pour divertir le monde. Et en fait, c'est pas grave, nous, ce qu'on veut. Et surtout, on l'a entendu juste avant avec l'actualité terrible. Je crois qu'on a besoin de se divertir, de lire des choses comiques. Et en fait, peu importe que ça soit puisé dans la vie, la vraie vie des auteurs, je pense qu'on s'en fiche complètement. Le principal, c'est de faire ce à quoi sert la culture, c'est-à-dire divertir les gens, leur faire du bien.
Il est beaucoup question d'amour hein, dans vos livres, oui. D'amour romantique ou amical. Ce soir, dans le Mac de l'été, j'aimerais vous faire lire un passage de Greta et Marguerite Kalindi Rumphel. Passage qui m'a particulièrement marquée et qui est scandé par le verbe « rester ». Je vous laisse y aller.
Bien sûr, on va essayer de pas bafouiller. Il m'aura fallu plus de 25 ans pour comprendre que l'amour tient à cela. Rester. Rester. Rester quand on discerne enfin, derrière un physique alléchant et de belles paroles, les peurs, les vanités, les laideurs de l'autre. Rester quand notre partenaire rencontre des problèmes familiaux, des problèmes d'argent, d'estime, parfois tout cela à la fois. Rester quand il devient une figure fraternelle, plus qu'un amant désirable. Rester quand les soirs sont tous les mêmes et les nuits de plus en plus chastes. Rester en dépit du temps qui affadit tout. Peut-être que c'est du masochisme, mais moi j'appelle ça de l'amour. Je veux le croire. Sinon, à quoi bon ? Il faudrait tout recommencer tous les 3 mois.
Merci Kalindi Rumphel. On va parler beaucoup plus de sororité, de bandes de filles et de meilleurs ennemis. Mais d'abord, un petit panorama de la culture. Ça serait après la britanno-japonaise Miso Extra qui chante l'envie irrésistible de presser un objet mignon dans Pop.
Just wanna squeeze you till you pop.
C'était Miso Extra sur France Inter avec Pop, extrait de son premier album, Ear Candy.
Le Mag de l'été. Constance Villanova sur France Inter.
Tous les jours à 18h35, 32 même, le Mag de l'été passe en mode vigie culturelle, c'est le panorama.
Panneau,
oui.
Obé. Non, c'est panneau.
Aujourd'hui, dans le panorama, on voyage encore, mais au-dessus des nuages, on se laisse bercer par le piano après avoir survécu aux baïnes de l'Atlantique et bien plus encore.
Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs.
Samedi 26 juillet, la chanteuse Zaout Sagazan a poussé un coup de gueule sur Instagram. Elle demande à Emmanuel Macron de ne plus utiliser ses chansons dans ses vidéos officielles. Il faut dire que le président et sa com sont de sacrés fans. Les morceaux Tristesse ou la Symphonie des éclairs leur ont déjà servi de bande-son. Alors Zaout Sagazan, elle refuse que sa musique accompagne une politique qui laisse, dit-elle, un peuple palestinien bombardé, affamé et humilié. Emmanuel Macron lui a répondu dès le lendemain. Il partage son exigence et promet, je cite, de ne pas détourner le regard. Comme elle, des artistes du monde entier prennent position. Massive Attack, Brian Eno ou Roger Waters dénoncent les pressions pro-israéliennes qui s'exercent sur les salles, les programmations ou les financements. Ils ont créé il y a quelques semaines un collectif pour défendre leur liberté d'expression. L'événement culturel du jour, les amis, c'est l'ouverture du Biarritz Piano Festival dans les Pyrénées-Atlantiques. Au programme, pour accompagner vos ratés en surf, 10 jours de clavier, de concerts au bord de l'Atlantique, entre Ravel, Fauré, Brahms ou Schubert. Parmi les solistes, Lucas Debargue, lauréat du prix international Tchaïkovski en 2015, ou Magdalene Ho, jeune promesse venue de Malaisie. Les jours s'égrènent entre petits-déj musicaux à 11h et concerts au clair de lune à 21h. Le Biarritz Piano Festival, c'est à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 28 août, avec des tarifs allant de 10 à 67 euros le concert. On quitte le costume Neupa pour les vrais papillons, les paillettes. Maria Carey est de retour. Après son dernier album, la diva aux 220 millions de disques vendus dévoile Sugar Sweet, un duo sucré avec les artistes Kehlani et Shensi. Voix cristalline, rythme dancehall et un refrain qui répète « Je veux ton amour, sucré comme un bonbon ». Sur la pochette, Maria rit au vent, bague papillon au doigt. C'est doux, c'est sensuel, ça fond comme une glace à l'eau. La BO de votre été. Allez, fini la sieste, on enfile ses baskets et son plus beau legging pour notre reco culturelle gratuite du jour.
On mesure le défi en termes de sécurité.
Ils seront 10 500 athlètes à débarquer et personne ne voulait manquer Paris. Les grands viendront en délégation, alors ça sera le cas par exemple de la team.
Allez, vas-y, c'est parti, Steph!
Le saviez-vous, les Jeux Olympiques de Paris fêtent cette semaine leur premier anniversaire. Alors oui, on en a soupé. Oui, vos enfants connaissent plus le palmarès de Léon Marchand que leur repère pour le brevet des collèges. Mais vous devez absolument rattraper la magistrale série documentaire Au cœur des Jeux, réalisée par Gédéon et Jules Naudet. Un an après Paris 2024, ils reviennent sur 5 mois d'aventure olympique, des coulisses à la scène. 1200 heures de rush, une narration libre et des images sublimes, des non moins sublimes Léon Marchand, Kaoli West et Tony Estanguet, on en redemande. Les 5 épisodes sont disponibles en intégralité sur France Télévisions. Avec moi ce soir à la table du Mac de l'été, c'est toujours la lumineuse romancière Kaline Gérampel. On parle ensemble d'amour entre femmes, d'amour entre hommes et femmes, bref, de relations amicales et ou romantiques. Alors, dans vos romans, il y a des histoires de famille choisie. Dans Greta et Marguerite, Greta, Elle considère l'enfant de son amoureux qui est marié, Romuald, comme sa propre fille. On peut penser la famille en dehors des caisses traditionnelles. Qu'est-ce que ça raconte de vous, Kalindi Rumpfel ?
Ça raconte pas grand-chose parce que moi, j'ai eu une... famille extrêmement traditionnelle, pour vous casser un peu votre émission, Constance. Non, il s'avère que moi, j'ai grandi, j'avais... mes parents étaient encore ensemble, mais moi, j'ai souffert de quelque chose qui s'appelle être un enfant unique. Donc, c'est vrai que moi, faire famille en dehors de la petite famille de laquelle j'ai hérité, c'est un petit peu obsessionnel. Dans mon premier roman, Les Jours Mauves, il y avait toute une galerie de personnages que mon héroïne considérait quasiment comme sa famille. Et là, c'est ce que j'essaie de refaire avec Greta et Marguerite. C'est aussi de raconter qu'on n'est pas obligé de n'aimer que ses enfants à soi. On peut aimer les enfants des autres. On peut les considérer comme un membre de sa famille à part entière. Et c'est vrai que je crois que j'ai toujours été assez obsédée par la famille, vous savez, qui part en vacances ensemble l'été, qui font des grandes tablées, qui mangent des brugnons comme ça, en se regardant dans le blanc des yeux. Je trouve ça formidable. Moi, j'ai pas eu droit à ça parce que vraiment, j'avais qu'un père et une mère, pas de frères et sœurs, pas de cousins, machin. Et c'est vrai que je suis assez obsédée par l'idée de faire de nos amis des membres à part entière de notre famille choisie.
Et justement, vous avez toujours travaillé en bande, vous avez toujours vécu avec des gens, que ce soit quand vous écriviez pour le Média Mademoiselle, vous étiez plusieurs, ou dans le podcast aux 2 millions d'écoutes que vous co-animiez et que vous avez quitté il n'y a pas longtemps, que
c'est
vous co-animiez avec trois copines qui s'appellent 4 quarts d'heure. C'est important pour vous d'avoir une bande de filles, Kalindi Rumpfel ?
Oui, je crois que c'est quelque chose dont j'ai manqué dans mon adolescence. J'ai été une adolescente terriblement timide, mal dans sa peau, très très moustachue, il faut bien le dire, ce qui n'a pas aidé. Mais et je crois que en fait j'ai eu la chance de rencontrer plein de gens en étant adulte. Moi j'ai fait un peu le circuit inverse des traditions. Souvent on se fait des bandes à l'école. Moi je me suis fait des bandes en étant adulte et j'ai découvert le concept de traîner avec plein de gens et tout et plein de femmes. Et mon Dieu, mais quelle puissance ça donne, quelle force ça donne. Et c'est vrai que j'ai notamment découvert ça via mon podcast 4 quarts d'heure où je salue mes trois comparses et j'ai adoré. Et puis quoi de plus formidable, Constance, que de travailler avec ses amis.
Oui,
mais moi je ne veux faire que ça de ma vie, quoi, par pitié. J'espère que ça continuera longtemps encore. Alors j'ai quitté le podcast parce qu'apparemment j'aime me contredire, mais c'est pour faire bande ailleurs, j'espère, un jour.
Dans votre livre, Greta, donc l'héroïne, une des deux héroïnes, elle tombe amoureuse de Romuald qui est marié à Marguerite. Alors tous les opposent ces deux femmes physiquement et psychologiquement, vous les décrivez très bien. Elles ont tout pour être rivales. Est-ce que c'était important pour vous de montrer une autre voie ?
Bien sûr, je crois que on montre énormément, et dans la littérature, et à la télévision, et au cinéma, la rivalité entre femmes, qui est un concept qui arrange bien du monde, hein, qu'on se dresse les unes contre les autres au lieu de s'allier. Et je crois que j'avais très envie non seulement de renverser la figure habituelle de la belle-mère. Constance, vous et moi, on fait partie de la même génération, on a grandi devant des Disney notamment, où il y a la figure de l'horrible marâtre. Et moi, je voulais montrer la figure d'une belle-mère un peu lumineuse et positive, qui répand son amour et qui a grand cœur, et j'avais très envie que d'une détestation mutuelle passée naisse un vrai endroit d'amitié lumineuse pour mes deux héroïnes qui vont se découvrir, qui vont faire fi de leurs différences pour s'unir dans l'adversité, et peut-être qu'entre elles deux va naître encore autre chose. Je ne veux pas spoiler le roman non plus, mais je crois qu'en fait, un peu malgré moi, parce que vous savez, quand on écrit, il y a des choses qui s'écrivent un peu en dépit de l'auteur. Je ne savais pas exactement où j'allais emmener, jusqu'où j'allais emmener mes héroïnes quand j'ai démarré l'écriture, et puis leur amitié m'a dépassée et j'ai fait partie de leur binôme, et ça a été un vrai plaisir pour moi.
Vous parlez de la belle-mère, on va parler de la mère, parce que sur vos réseaux, dans vos interviews et surtout dans vos deux romans, votre mère elle est partout, elle inspire un des personnages de votre premier livre.
Oui.
Sa profession inspire la protagoniste du second. Vous êtes fusionnelle, est-ce qu'on peut être amie avec sa mère ?
C'est une excellente question. Moi je crois que ma mère reste ma mère, hein, c'est-à-dire que je n'arrive toujours pas à parler de sexualité devant elle. C'est peut-être la seule chose qui nous différencie de deux vrais amis. Est-ce qu'on peut être amis avec sa mère ? Je crois que, mine de rien, en ayant vieilli, car j'ai désormais 32 années révolues, vous rendez-vous compte, Constance, c'est terrible. Et je crois qu'en vieillissant, j'apprends en effet à dépasser le cadre vraiment mère-fille et à avoir de vraies conversations qu'auraient deux amis finalement avec ma mère. Ma mère, et c'est terrible parce que je crois qu'elle est ma meilleure amie, mais je crois crois que ça n'est pas réciproque. Et notamment, moi, je ne cesse de l'honorer, je n'arrête pas de la mettre dans mes romans, je n'arrête pas de lui rendre hommage, et elle n'arrête pas de détester plein de choses que j'écris.
Elle vous a consacré un compte Instagram qui
arrêtez
dont
de
le
dire.
But est de se moquer de vous.
Oui, non. Alors elle vous dirait non, c'est pas vrai, parce que là, j'ai perdu mon mot de passe de ce compte-là. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, elle avait un compte où c'était c'était un carrousel. La première photo, c'était moi sublime, comme je le suis d'habitude, et la deuxième, c'était moi atroce, en train de sortir mes poubelles avec une cagoule. Enfin bon, bref, c'était n'importe quoi. Et je crois que cette femme tire un énorme plaisir dans l'humiliation de sa seule progéniture. C'est affreux.
Mais ça crée des liens. Vous marrez bien toutes les deux.
Ah, on ne fait que rigoler. Mais notre amour est basé sur l'envoi de pics permanents. Moi, c'est comme ça que j'aime les gens. Et j'ai lu une étude l'autre jour qui disait que quand on est vraiment amis avec des gens, on peut s'insulter, on peut s'envoyer un petit peu des fions. Et on ne se vexe pas. Voilà. On sait que c'est pour la rigolade.
Il y a d'autres amitiés que vous défendez, des amitiés peu communes. Vous remerciez, vous avez remercié en interview vos anciens amoureux. Et, oui. Et vous avez collaboré d'ailleurs avec l'un d'entre eux. Les couvertures très identifiables de votre livre ont été réalisées par un de vos ex. On peut être ami avec ses ex, Kalindi.
Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Vous défendez ce
je principe. Le défends bec et ongle. Je me lève le matin et je me dis, ce matin, je défends l'amitié entre les ex. Non, oui, en fait, moi, je suis très. J'ai du mal à désaimer. Et mes personnages dans mes romans ont du mal à désaimer de la même manière. C'est-à-dire que quand quelqu'un a fait partie de ma vie, je ne comprends pas pourquoi il faudrait les laisser partir. Je crois qu'il existe plein de formes d'amour et qu'on peut emmener nos ex dans d'autres formes d'amour amitié, amicaux. Et ça, c'est vraiment quelque chose à laquelle je tiens fondamentalement. Et je trouve formidable que mon conjoint aujourd'hui le comprenne, qu'il soit devenu copain avec mes ex et qu'on forme de grands. On parlait de bande. Alors, on part pas en week-end ensemble toutes les semaines non plus, faut pas exagérer. Mais en tout cas, on fait partie de nos vies et c'est encore ce qui compte le plus.
En troisième partie, Kalindi Rumphel, on s'est dit que ce serait criminel de ne pas vous présenter Johanna Cincinnatis. Elle est journaliste, autrice et elle pense, comme vous peut-être, que l'amitié entre femmes peut sauver le monde, ou au moins nos soirées. On sent que vous allez bien vous entendre ou au pire, écrire un roman ensemble. On reprend après Loose and the Yakuza Good to Know sur France Inter.
Peuvent se casser. Est-ce que les miettes d'un cœur peuvent encore être mangées? Je me demande ce qui se serait vraiment passé si on s'était dit tout le fond de notre pensée. La folie des non-dits et des paroles en l'air. La manie de mentir pour se jeter la pierre. On se force à être poli, on ne sait plus quoi faire. J'ai envie de partir.
Never seen that before. You're so sweet.
Good to Know de Loose and the Yakuzas, extrait de son dernier EP No Big Deal, c'est toujours bon à savoir.
Le mag de l'été sur France Inter.
Pour ceux qui nous rejoignent, je suis toujours avec vous, Kalindi Rumphel, autrice du génial et carton en librairie Greta et Marguerite, publié au printemps chez Lattès. Et nous allons continuer à nous aventurer dans les méandres de l'amitié au féminin. Bonjour Johanna Cincinnatis Abramovic. Vous
Bonjour
êtes
Constance.
Journaliste et vous avez publié chez Stock un petit bijou d'essai sur les amitiés entre femmes. Son titre, Elles vécurent heureuses. Sous-titre, L'amitié comme idéal de vie. Alors j'y ai croisé des sœurs d'âme, des ruptures amicales sans sommation, des copines fusionnelles, trop fusionnelles parfois, et un code d'honneur un peu complexe. Bref, c'est drôle, nécessaire et ça donne envie d'envoyer un vocal très très long à toutes nos meilleures amies. Johanna Cincinnatis Abramovic, on est le 28 juillet, c'est l'été, et j'aimerais commencer par le sujet colo de vacances, parce que dans votre livre, vous racontez que vous passiez un mois par an en camp scout et que vous vous sentiez, je cite, en sécurité dans la chambre des filles séparée de celle des garçons. En quoi ces colos, elles vous ont formé à la sororité ?
Je pense que c'était mes premiers espaces de solidarité, d'inventivité, d'agentivité entre femmes. J'ai le souvenir de... En fait, j'ai vraiment passé 12 ans en colonie de vacances. Faut imaginer un truc genre nos jours heureux. Sauf que pour tous les groupes d'âge, il y avait deux chambres. La chambre des filles, la chambre des garçons. Et il se trouve que tous les pendant 3 semaines, on partait, on logeait dans du dur. Mais pendant 2-3 jours, on partait genre Robinson Crusoe en forêt et on dormait à la Belle Étoile. Et moi, je me souviens d'une copine, Evelyne, qui me disait toujours « Si tu dois faire pipi cette nuit, tu me dis, je prends ma lampe torche et on y va. » Et en effet, j'avais une vessie extrêmement incapable de supporter la forêt nocturne. Et donc, on partait ensemble au beau milieu de la nuit pour qu'elle m'accompagne faire pipi. Et je crois que c'est parce qu'on partageait la chambre ensemble avec d'autres copines et qu'on a créé un lien avant que cette solidarité, elle pouvait s'exprimer après.
Kalindi, est-ce qu'il y a un lieu où vous avez appris la sororité ?
Eh bien, je vais dire exactement la même chose pour être originale, en colonie de vacances, qui était un endroit qui représentait à peu près l'enfer sur Terre pour moi. Mais c'est toujours comme ça, la colo, on n'a pas envie d'y aller, et puis après, on n'a pas envie de revenir chez maman, papa. Mais je crois que c'est un peu les mêmes histoires de... moi, c'était plus, je me souviens d'une copine qui avait fait pipi au lit pendant une colo, et en fait, on avait changé les draps pendant la nuit avant que les monos le voient. Enfin, des petits endroits comme ça d'entraide qui étaient formidables. Et moi qui suis enfant unique, de toute façon, c'était le seul endroit où je fréquentais d'autres enfants, à part l'école, cet autre enfer sur Terre.
Johanna Cincinnatis Abramovic, dans votre livre, il y a énormément d'exemples culturels qui montrent que la rivalité féminine, elle est partout et que l'amitié féminine, elle est très peu représentée. En littérature classique, vous dites que l'amitié féminine, c'est une amitié d'intérieur, une amitié de foyer. Vous citez par exemple Une chambre à soi de Virginia Woolf. C'est quoi pour vous cette amitié du dedans ? Comment vous pouvez nous la définir ?
C'est un concept que j'ai pioché dans le livre de la brillante journaliste Pauline Le Gall, qui a écrit sur les amitiés féminines au cinéma et qui a expliqué que la plupart des scènes où on voit des groupes de copines à l'écran sont tournées à l'intérieur. C'est le canapé d'un café, c'est la chambre, le lit, la salle de bain, la cuisine, le salon. Alors que pour les mêmes fictions, les hommes ont droit à ce qu'elle appelle les grandes embardées. Dans le cinéma, c'est ce qu'on appelle la ligne de désir. Et moi, je me suis rendu compte que les groupes de mecs, entre eux, ils avaient une ligne de désir qui était créative. C'est-à-dire, c'est le road trip, le western movie, c'est le policier, c'est le thriller, le casse du siècle, exactement. Donc en fait, leur amitié, elle existe à l'extérieur. Elle laisse une empreinte sur le monde. Pour l'équivalent, les femmes, elles, leur amitié, elle est un sas qui permet de déposer tout ce qui va pas dans leur vie, parler de leurs mecs, de leurs meufs, de leurs enfants, de leurs tracas au boulot, vite fait du travail. L'exemple archétypal, c'est Desperate Housewives, où en fait, l'amitié est un sas, un dépotoir vraiment, dans lequel, en fait, on peut juste subir. Et donc, les hommes, l'amitié, c'est un tremplin qui les guide vers une vie meilleure. Et les femmes, l'amitié, c'est juste un endroit pour endurer leurs conditions de vie.
Dans la pop culture, les femmes ne peuvent être amies que sous conditions. Soit elles sont sœurs, soit elles sont amantes, soit elles sont rivales. Il y a un exemple que vous prenez dans le livre, c'est le film Comme tu es belle, de Lisa Azuelos.
Léa, qu'est-ce que t'en as à foutre ? Il y a prescription, ça fait 2 ans que vous êtes séparés.
Quoi ?
T'as recouché avec lui ? Avec Yvan ?
Ça va, maintenant c'est fini.
Ouais. T'as aucune volonté, c'est grave.
Céline Balitran, non mais tu te rends compte, parle d'elle rien que parce qu'elle a couché quoi, non ?
Dossier surcrété.
Ah, dommage. Bon, Michel-Ange, vous avez fait le tour ?
Je
Tu connais Michel-Ange ?
Un beau gosse qui drague ta sœur à l'école.
Non.
N'importe quoi.
Mais si, tu m'as dit qu'à la rentrée, il t'avait dragué.
Moi, je t'ai rien dit, surtout pas pour que tu le répètes. Des conneries en plus.
Bah ça, ils disent ce que vous venez de dire, mais comment et pourquoi ce succès des années 2000 version féminine hein, de la vérité si je mens, c'est comme ça que ça avait été présenté, cristallise-t-il autant de clichés sur l'amitié féminine? Cette scène, elle se passe par exemple dans un parc pour enfants.
Ouais.
Qu'est-ce que
ouais,
ça raconte cette scène? Qu'est-ce qu'elle raconte?
Mais ça raconte cette histoire de sas de décompression et c'est quelque chose que j'ai identifié en écrivant le livre. Je me suis rendu compte que les femmes on a la capacité d'intégrer le couple hétéro dans nos conversations de façon obsessionnelle. Vraiment. Installez-vous, je vous recommande l'expérience, installez-vous à une terrasse de café, écoutez des femmes parler. Franchement, il y a de fortes chances qu'elles parlent d'hommes. À tout moment pour se dire des choses absolument déplorables comme « mais si, il va te rappeler ». et je me suis rendu compte que ça se voit aussi dans la fiction. Et d'ailleurs, ça porte un nom, c'est le test de Bechdel. Quand on analyse la plupart des films grand public, on se rend compte que les femmes, quand elles parlent entre elles dans un film qui est souvent écrit par un homme, en fait, elles parlent d'un autre personnage du film qui est un homme.
Dans la presse à scandale, c'est toujours plus vendeur de montrer deux femmes qui s'écharpent plutôt que deux femmes qui s'étreignent, qui font alliance. On peut citer Britney Spears contre Christina Aguilera, Diana, Lady Di contre Camilla. Pourquoi, selon vous, Johanna, le mythe de la rivalité féminine, il fonctionne si bien?
Ça, c'est Racha Belmedi qui le dit. Elle dit, elle a écrit Rivalité non féminin. Elle dit, la rivalité passionne. Et chaque année, mais tous les six mois, il y a un exemple. Je crois que l'année dernière ou l'année d'avant, c'était Inès Reg et Natacha Saint-Pierre sur le plateau de Danser avec les stars. Et alors, t'es team qui? Enfin, je pense qu'elle passionne parce qu'il y a quelque chose de, il y a un regard infantilisant qui se pose sur les conflits entre femmes. Il y a l'idée que c'est assez vain, enfin, que ça va nulle part, que ça n'a aucun enjeu. Et moi, ce qui me gêne, c'est que c'est des conflits qui sont considérés comme des conflits très spécifiques. On est presque sur quelque chose de l'ordre de « c'est plus fort qu'elle ». C'est dans leur caractère, elles ne peuvent que s'entretuer. Et donc, il y a quelque chose qui est dépolitisé du fait que ces conflits entre femmes, d'abord, le groupe femme n'est pas un groupe homogène. Il y a des femmes qui entrent plus en conflit que d'autres. Il y a des femmes qui ont moins les moyens de se défendre de ces conflits. Je pense à, dans la fiction, par exemple, le film Mean Girls, Lolita malgré moi. Mais en fait, il y a une scène finale où on les voit toutes se réconcilier, mais à aucun moment il est question du fait que c'est toujours les plus belles, les plus blanches, les plus bourges et les plus riches qui humilient les grosses, les moches, les noires. Et aussi, on ne pose jamais la question de ce que c'est que de lutter pour l'amour d'un homme. Et quand on voit dans un film qu'à la fin de l'histoire, il n'y en aura qu'une qui sera choisie par le BG du lycée, bah, en fait, ça crée
BG
forcément
pour beau gosse, beau gosse. Précise.
Attends pour moi. On est entre nous. En fait, ça crée forcément des conflits et de la concurrence.
Kalindi Ramphal, est-ce que vous essayez de lutter contre ce conditionnement aussi qu'on a en tant que femme de rivalité féminine? Est-ce que vous mettez des choses en place pour animer votre sororité?
Vous voulez dire dans la vie
dans
pratique?
Dans la vie pratique.
Écoutez, déjà, moi, je n'ai quasiment que des amis qui sont des femmes parce que sinon, je couche avec. Et donc, ça, c'est une première chose. Non, mais voilà, moi, c'est vrai que je ne fréquente que des femmes et quand je parle de mon conjoint, c'est pour m'en plaindre, évidemment. Je crois que... Enfin, c'est intéressant que je vous écoutais raconter ça, Johanna, et je suis d'accord, mais c'est vrai que moi, en vieillissant personnellement, quand je vais sur les terrasses de café avec mes amis, j'ai l'impression que les hommes sont de plus en plus exclus de nos conversations. Et je crois que c'est finalement une bonne nouvelle car nous avons tant d'autres choses à nous raconter.
Est-ce que vous vous aménagez des temps? Je sais que moi, j'ai certaines amies qui s'aménagent des temps de conversation où on ne parle pas du couple et des hommes. C'est une bonne technique, je vous la conseille.
Non, nous, on s'installe autour d'un café, on va se plaindre pendant 10 minutes. Si on a 2 heures de café, on va se plaindre pendant 10 minutes du dernier foirage en date.
Ouais.
Mais après, on va très vite passer à autre chose, quoi.
Mais vous m'effrayez parce que ça veut dire qu'il faut mettre un temps en place pour ne pas parler
un chrono,
de ça, mon Dieu,
même,
mais c'est terrible.
Non, mais sinon, c'est vrai que le popcorn, il est tentant, quoi. De se dire, ah, il a encore fait ça, oh le nul, oh le message, c'était nul.
Certes.
En quelques secondes, Johanna Cincinnatis, vous posez cette question radicale dans votre livre. Si le couple passait au second plan au profit de l'amitié, qu'est-ce qui se passerait?
Je pense qu'on ne se rend pas compte que nos sociétés, elles ne fonctionnent pas uniquement sur une structure économique et politique, mais elles fonctionnent aussi sur des structures affectives. Dans la mesure où aujourd'hui, quand on aime quelqu'un, sur le plan romantique, j'insiste, on a tendance à entretenir une sexualité avec cette personne, sexualité dit couple, dit foyer, dit cohabitation. Moi, parfois, je me demande qu'est-ce qui se passe si on enlève sexualité de cet échelon-là. Est-ce que ça ne rebattrait pas énormément de cartes sur l'habitat collectif, le rapport au vivant, le rapport aux enfants, à l'éducation, à qui on vendrait des lave-linges, à qui le capitalisme va vendre des lave-linges si on habite à 15 dans une maison et qu'on n'a pas besoin d'un monospace, un lave-linge et une résidence pavillonnaire.
Alors, cette émission touche à sa fin, je suis désolée.
Déjà,
ouais. Non. Les vacances, c'est bien, mais avec le bon livre, la bonne série, le bon podcast, c'est encore mieux. Alors, on met quoi dans sa valise? C'est le kit de survie culturelle. Johanna, le plus beau morceau qui célèbre l'amitié entre femmes, selon vous?
C'est À contre-cœur de Yoa, qui est sorti il n'y a pas longtemps et qui parle des ruptures amicales, parce que je pense que c'est l'angle mort de l'amitié.
Kalindi Rumpel, la série qui célèbre les bandes de filles, selon vous?
Ah ben, moi, je n'ai rien d'autre que Girls, malheureusement. Rien de récent, mais c'est quand même un magnifique classique.
Johanna Cincinnatis, le film qui se noie dans les clichés sur l'amitié, mais que vous adorez tout de même.
Bah là, je suis en train de regarder Two Desperate Housewives.
Mais bien sûr, oh là là, je suis en train de tout regarder.
Parce que la rivalité est liée.
J'adore. Ah ouais, 100%. Qui aura la plus belle tondeuse, qui fait les meilleurs pancakes.
Et comment vous expliquez que vous aimez re-regarder cette série pétrie de clichés?
Mais j'explique ça parce que j'ai un coloc qui est réalisateur et qui a décidé de tout re-regarder à des fins professionnelles.
Oui, c'est pour le travail. Kalindi Rumpel, votre autrice incontournable de tous les temps.
Je dirais Emmanuelle Bayamaktam, qui est à la fois l'autrice la plus drôle.
Qui écrit aussi sous le nom Rebecca Ligueri.
Exactement, quand elle s'embarque dans des contrées plus noires encore que celles quand elle publie sous son nom véritable. J'encourage toute personne ayant foulé cette terre à lire du Emmanuelle Bayamaktam.
Les différentes recommandations du kit sont à retrouver sur le site et l'appli Radio France, évidemment. Merci à toutes les deux, Kalindi Rumpel. Greta et Marguerite, c'est publié chez Lattès. Il est disponible en librairie. C'est un livre parfait pour l'été. Merci Johanna Cincinnatis Avramovic. Votre essai « Elle vécu heureuse, l'amitié entre femmes comme idéal de vie » est publié chez Stock. Joli mois d'août à toutes les deux. C'était le Mac de l'été avec Louise Tempero, Tara Natouri et Ibrahim Damani à la préparation de cette émission. Étienne Bertin à la réalisation, assisté d'Amazir Amadaïn, guest, et d'Étienne Kenel, et à la technique, Loïs Moreau.